jusqu'à 11h. C'est La Vie en Bleu. Bruno Gaulin.
150 000 AVC recensés chaque année en France. Une personne sur cinq décède dans le mois qui suit. Trois quarts des survivants vont garder des séquelles définitives. Certains ne reprendront jamais l'activité professionnelle. Ici, 75% des victimes d'AVC sont des personnes âgées de plus de 65 ans. Faut pas oublier qu'il y a 25% des personnes victimes de ces AVC qui n'ont pas 65 ans, qui sont parfois très très jeunes. On va parler de ces AVC aujourd'hui à l'occasion d'un Tour de France un petit peu particulier qui est réalisé par Philippe Ménard et Gino Porretto. Alors Philippe Ménard est avec nous en studio. On va voir pourquoi ce parcours, pourquoi cette sensibilisation. Et on va parler des AVC. Alors si vous souhaitez témoigner aujourd'hui, si vous avez été victime d'un AVC, si vous faites partie de familles, de personnes qui ont connu des AVC, vous pouvez nous appeler évidemment 02 99 67 35 35 et vous allez pouvoir échanger jusqu'à 9h40 avec Philippe Ménard.
La Vie en Bleu, à retrouver sur francebleu.fr.
Philippe Ménard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez laissé votre tricycle pas très loin des studios de France Bleu Armorique.
Oui, pas très loin.
Bon, alors vous faites un tour de France à tricycle pour votre part.
Tout.
Oui. Pourquoi ? Pour nous sensibiliser aux AVC, c'est ça ?
D'abord, mon histoire a fait que j'ai été victime d'un AVC et au début c'était un peu compliqué. Je suis passé après un coma, une opération neurochirurgicale, je suis passé du fauteuil roulant au déambulateur et de longs mois à la canne avec une difficulté liée à l'opération neurochirurgicale qui m'a été dispensée avec une ablation d'une partie du cervelet. Je peux plus faire de vélo, donc je peux plus travailler non plus. Donc ne faisant plus de vélo et ne pouvant pas travailler, j'avais devant moi un boulevard de donner un sens à ma vie et de faire avec ce que sont mes handicaps. Donc on a décidé de faire un parcours un peu fou au travers de ce Tour de France pour prévenir, sensibiliser le plus possible au travers de 25 étapes.
Alors on va parler de ce Tour de France, on va parler de ce qui vous est arrivé aussi, parce qu'à travers votre expérience, on peut tirer des leçons également pour chacun d'entre nous. Évidemment, c'est l'intérêt aussi de cette démarche qui est la vôtre. Et on va inviter tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'échanger avec vous, on va les inviter à nous appeler au 02 99 67 35 35. La Vie en Bleu aujourd'hui sur les AVC avec Philippe Ménard. avec la voix de Sting, Walking on the Moon.
La vie en bleu sur France Bleu Armorique. Bruno Gaulin.
Et Philippe Ménard qui est invité de cette émission aujourd'hui à l'occasion d'un Tour de France dont on va parler hein, dans quelques minutes. Et puis à l'occasion de cette opération de sensibilisation donc aux AVC. On va peut-être commencer par une définition. C'est quoi un AVC ?
Alors un AVC, il y en a de deux types. Il y a un AVC ischémique qui est le plus répandu, hein, c'est 8 sur 10. C'est un caillot qui se forme dans une artère, dans une veine du cerveau et qui donc obture la circulation sanguine. Et puis il y a un AVC hémorragique qui est un autre problème sérieux, qui est un déchirement carrément de l'artère ou de la veine et qui provoque une étendue de sang dans le cerveau et qui augmente considérablement l'urgence médicale.
Mmh. Donc il y a 150 000 AVC déclarés chaque année en France, qui concernent une population alors qu'on pense souvent un petit peu âgé, au-delà de 65-70 ans, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que vous, votre AVC, vous l'avez eu à quel âge ?
J'avais 43 ans, mais ceci dit, je cumulais les facteurs de risque.
C'est-à-dire
l'hypertension artérielle, qui est quand même le pompon, puisque dans 8 AVC sur 10 qui sont déclarés, on trouve de l'hypertension artérielle. La malbouffe, la sédentarité, l'hyperactivité, le tout lié à ma vie précédente dans la vie publique, toujours courir, mal manger, pas avoir le temps de faire.
Hein, vous étiez maire d'une commune, Barsac, en Gironde. Voilà. Vous étiez conseiller régional d'Aquitaine, pas nouvelle Aquitaine à l'époque, l'ancienne Aquitaine. Ouais. Donc effectivement, et j'imagine d'autres fonctions dans des syndicats intercommunaux.
J'étais président d'une intercommunalité.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est une hyperactivité liée à une ambiance et des rapports humains qui ne sont pas des plus apaisés. L'hyperactivité entraîne la malbouffe, entraîne l'hypertension artérielle, entraîne la sédentarité. Donc tout ça crée un cocktail qui pose un jour un problème. Moi, ça en a posé un gros à 43 ans.
Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Je suis rentré tard de la mairie. Tard, c'est-à-dire
normalement quand on est maire.
Et je me suis couché à 1h du matin, ce qui est une heure normale. Uh-huh. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien depuis déjà quelques heures. J'avais mal à la tête. Je me suis couché, je me suis endormi. Je me suis réveillé 2 heures après avec une envie de vomir très, très prononcée. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Moi qui n'ai jamais pris de cuite de ma vie, j'ai vu que je tenais pas droit.
D'accord.
Donc il a fallu que je rampe par terre, je suis allé aux toilettes, je suis revenu à mon lit. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand on est isolé, j'étais seul, quand on est isolé la nuit, le seul moyen que l'on a, c'est d'appeler le 15. Et j'ai bien fait, en fait, puisque grâce au fait que j'ai activé très rapidement la chaîne des secours, on est venu me secourir à la maison et on m'a amené, enfin, les pompiers m'ont amené à l'hôpital. Et j'ai été pris en charge immédiatement par les équipes médicales. Donc, c'est allé très vite. Je me souviens plus, je suis tombé chez moi. Je me suis réveillé, j'ai rouvert les yeux 15 jours après. Mais le fait d'avoir appelé le 15 a mis toutes les chances de mon côté pour que je puisse être là aujourd'hui.
Il y a des délais de réaction qu'on attribue à peu près autour de 4 heures. Hein, c'est à peu près ça.
Oui. La généralité fait que il y a deux traitements médicaux qui sont actuellement utilisés par les équipes médicales. D'abord, il y a la thrombolyse, qui est une injection d'un produit qui dissout le caillot, qui peut dissoudre le caillot. Il faut l'injecter dans les 4h, 4h30. Et lorsque ce délai est passé, c'est pas un délai comme ça, c'est que le caillot peut durcir au-delà de 4h30, donc ça devient beaucoup plus difficile pour le dissoudre. Il y a ensuite la thrombectomie mécanique, qui est le fait qu'on rentre directement par l'artère dans la tête, on va chercher le caillot, et on le retire par voie naturelle. Il est dit que normalement, c'est jusqu'à 6 heures après l'AVC, mais on se rend compte que ce délai en fait est beaucoup plus important en nombre d'heures. Il est de toute façon extrêmement important d'activer la chaîne des secours pour adapter le traitement médical parce que plus on agit vite, moins les séquelles sont importantes et de fait, plus les chances de vivre, de survivre, ou les séquelles sont amoindries de par la rapidité d'intervention.
Qu'est-ce qui peut faire dire qu'on est en train de faire un AVC ou pas ? Quels sont les signes un peu qui peuvent laisser deviner que c'est un AVC ?
Alors, il y a deux solutions. Il y a deux cas, pas deux solutions. Il y a le fait d'être tout seul et le fait d'être au milieu de gens. À partir du moment où il y a un affaissement du visage, une difficulté à parler, la perte de mobilité d'un bras ou d'une jambe, il y a une suspicion d'AVC, de problèmes neurologiques importants et de souffrance du cerveau qui est induit de par ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas 50 solutions. Quand on voit ça, quand on identifie ça, il faut appeler le 15 pour activer la chaîne des secours. Il ne faut pas appeler le médecin traitant, il ne faut pas charger dans la voiture et aller aux urgences. Il faut activer la chaîne médicale. Et puis, il y a le fait qu'on puisse se rendre compte que sur soi, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut plus parler, mais on peut utiliser encore un bras, faire le 15, il suffit de faire le 15, même si on n'est pas compréhensible dans le prononcé, la personne qui est à l'autre côté du téléphone va comprendre qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est le fait de mettre toutes les chances de son côté pour s'en sauver. Et puis, il y a malheureusement le fait qu'une personne est isolée, ne peut pas bouger, ne sait pas ce qu'il convient de faire, et en espérant être visité très rapidement de façon à ce que la personne qui va la trouver puisse activer rapidement les secours par le 15.
Est-ce que vous aviez toutes ces infos avant vous, avant votre AVC ou pas ? Non, bien sûr.
Non, j'étais sensibilisé parce que je pense notamment, on est au mois d'octobre, le cancer du sein était quelque chose qui m'interpellait et qui forcément j'ai eu autour de moi des personnes, des femmes qui ont été touchées et je me souviens avec le comité féminin Gironde dépistage du cancer du sein, on avait monté un certain nombre d'opérations. Déjà, il y a 6 ou 7 ans, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Donc, ça m'interpellait et je leur disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Et puis, j'étais persuadé, comme la plupart des gens qui nous écoutent certainement, c'est que les AVC, ça concerne que les personnes âgées. Mmh. Donc, ça ne me concerne pas à moi.
Oui,
je peux faire éventuellement quelque chose pour le club 3e âge, mais moi, en tant que mère qui ai 42 ans, 3 ans, je risque rien. Et puis, je me suis rendu compte que ça concernait vraiment tout le monde.
Mmh, parce qu'on a, des cas, donc le vôtre, 43 ans, c'est ça, quand vous avez eu votre AVC, on a des cas beaucoup plus jeunes, on a des enfants qui peuvent avoir des AVC, c'est assez rare, mais ça arrive aussi.
Ça arrive, alors après, il y a des causes très différentes, hein. Ça peut être un problème de santé, un problème de malformation qui entraîne des difficultés. Par exemple, dans ma région, puisque j'ai les chiffres de ma région, il y a même en Nouvelle-Aquitaine, il y a 10 AVC par semaine de personnes de moins de 40 ans. Donc, soit ce sont des problèmes médicaux, des problèmes de malformation, soit ce sont des problèmes de façon de vivre. Parce qu'on se rend compte que dans la tranche d'âge 25-30 ans, il y a un doublement ces 10 dernières années de cas d'AVC. Alors, c'est pas beaucoup, puisque les moins de 65 ans sont proportionnellement peu nombreux. Sauf que, je jette la pierre à personne, mais on voit fleurir à la sortie des villes de la bouffe rapide, grasse, sucrée, très sucrée, qui ne joue pas sur la santé des gens. Et sauf que les 25-30 ans d'aujourd'hui auront demain plus de 65 ans. Donc on est face à une bombe à retardement liée à la non-prise en compte de sa santé et tous les facteurs qui pourraient constituer une bonne santé.
Donc les soucis, c'est alimentation, hypertension, cholestérol peut-être aussi ou...
Oui, cholestérol, diabète, mais ouais. C'est tout ça est lié à une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui peut être liée à la sédentarité, l'hypertension artérielle. Dans une immense majorité des cas, elle est liée à des problèmes de mauvaise bouffe et de manque d'exercice et de surpoids lié à la non prise en compte de ces facteurs.
Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut communiquer aussi. Prenez soin de vous pour essayer de vous protéger, quoi, déjà.
La différence entre, par exemple, le cancer du sein dont je parlais tout à l'heure, c'est que il y a des maladies comme le cancer du sein que l'on subit, Et il y a des maladies dont on est pleinement responsable, puisque si jamais on prenait en cause, en prenant en considération soigner son hypertension artérielle, soit par un changement de vie, soit par un traitement médical, si on changeait ce que l'on mange et si on faisait un peu de sport, on éviterait 80% des AVC en France.
02 99 67 35 35 si vous souhaitez participer à cet échange avec Philippe Ménard, n'hésitez pas, donc appelez-nous. C'est ce Tour de France dont on va parler ce matin, Tour de France pour prévenir les AVC auxquels participe Philippe Ménard. Il n'est pas seul, nous en dira plus tout à l'heure.
Avant que ça coince en 9 lettres.
Fitalgique, ça protège les articulations.
Fitalgique, ah oui, je t'avoue que je coinçais un peu.
Et aujourd'hui, tu as encore plus fort. Fitalgique, Combro Plus.
Pour vos articulations, ayez le déclic Fitalgique. En pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus.
Certaines personnes atteintes d'un cancer souhaiteraient pratiquer un sport malgré leur maladie, mais est-ce compatible avec leur pathologie? Jean-Marc Descotes est cofondateur de la Camisport et Cancer.
Il est possible de faire du sport quand vous avez un cancer. Il n'y a pas de pratique recommandée. Il faut chercher de l'intensité, de la durée et de la fréquence. Et si vous ne vous sentez pas en sécurité, il vaut mieux faire ça avec des professionnels formés et dans des séances encadrées.
Plus d'informations sur sportetcancer.com. Cette chronique a été préparée à l'initiative de Bristol Myers Squibb.
France Bleu Armorique.
Sans sonner des points d'interrogation, je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine.
Tu me
Amir, état d'amour. On n'est pas vraiment en amour avec la météo aujourd'hui, mais bon, on fera avec, on n'aura pas le choix. On a un ciel couvert qui est prévu pour ce lundi, un ciel couvert avec de faibles pluies éparses, avec également des pluies peut-être plus fréquentes sur le littoral nord, des températures qui ne dépasseront pas les 15-16 degrés cet après-midi, et un vent faible à modéré de sud-ouest, un peu plus sensible sur le littoral, avec des pointes à 40 km/h.
Jusqu'à 11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Armorique.
Prévenir les AVC, c'est le sujet de cette émission aujourd'hui avec cette opération de sensibilisation qui est proposée par deux sportifs, Philippe Ménard et Zino Poretto, qui effectuent un tour de France, l'un avec un tricycle et l'autre avec un vélo. On va voir pourquoi. On discute aussi aujourd'hui avec vous, si vous le souhaitez, des AVC. Vous pouvez nous appeler au 02 99 67 35 35 pour témoigner et poser vos questions.
France Bleu Armorique, la vie en bleu, 02 99 67 35 35.
Philippe Ménard, donc vous êtes sur un Tour de France. Alors hier c'était état propos pour vous. Là vous allez repartir aujourd'hui pour aller sur la région de Nantes. Racontez-nous la genèse de cette affaire. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce Tour de France avec Zino Poretto ?
D'abord parce que c'était important de partager l'expérience, de discuter avec les gens. Et souvent on nous disait mais vous êtes salarié du ministère de la Santé, des agences régionales de santé. On leur dit non, on est des bénévoles, et il y a aussi Stéphane et Patrick qui sont avec nous et qui ont été victimes d'AVC. Et on leur dit, ben voilà, on est trois et on a fait des AVC. Deux réponses, deux interpellations, c'est d'abord vous êtes jeune,
oui,
et vous n'avez rien. Alors là, c'est pour nous, c'est très violent parce que on se rend compte ce que sont nos difficultés, handicaps invisibles.
Mais c'est ça, il n'y a pas de séquelles visibles, donc ouais, forcément.
Mais je peux vous garantir qu'au dernier étage de la fusée, c'est un peu plus compliqué. Et donc on installe la discussion avec les gens sur ce que sont les facteurs de risque, ce que sont les symptômes d'un AVC. Donc c'est extrêmement important d'avoir une parole citoyenne, humaine, à côté d'une parole médicale qui est plus ou moins entendue. Parce que c'est le médecin et qu'on veut pas savoir et qu'on veut pas voir, etc. Là, il y a eu davantage une facilité d'identification. Alors après, le Tour de France au complet, on est passé par le sud et on est remonté jusqu'à Metz et après Paris et jusqu'à Rennes. D'abord parce que on a eu la chance d'avoir France Bleu qui a été partenaire de notre tour, et donc on a fait le plus possible le même exercice que l'on fait ce matin, parce qu'il y a deux façons de communiquer. D'abord l'AVC, plus on en parle, mieux c'est vulgarisé, et on peut faire de la discussion avec les gens, et puis on peut s'adresser à des milliers de personnes, comme c'est le cas ce matin.
Ce tour donc vous permet de rencontrer des gens, de leur parler de l'AVC, d'en parler à travers vos expériences, donc à vous tous sur ce tour. C'est important aussi parce qu'on n'a pas on n'est pas caché derrière une blouse blanche, une blouse de médecin, quoi.
On n'est pas caché. D'abord, on n'a pas de blouse blanche, et puis on est monsieur, en l'occurrence monsieur tout le monde. Donc on a un stand de prévention, on propose des flyers d'information, et puis on propose aussi de prendre la tension, puisque lorsque l'on dit que l'hypertension artérielle est responsable et se retrouve dans 80% des AVC en France, ça interpelle les gens, et puis parfois on a des surprises. Je me souviens à Mayenne, par exemple, j'ai pris la tension à un monsieur, je l'ai pris trois fois, 20-10, 19-7, 20-8. Bon, il avait 75 ans. Donc, je l'ai regardé doucement, calmement, et je lui ai dit, monsieur, je crois qu'il faudrait que vous alliez voir un médecin pour faire contrôler tout ça. Et sa femme a compris et l'a embarqué rapidement pour aller voir le médecin. Donc, on est face à des situations. On peut délivrer des messages au travers de la radio, on peut faire tout ça, au travers de la presse régionale, on peut faire tout ça. Mais on se rend compte qu'il y a quand même encore des gens, c'est incroyable qu'à 70 ou 75 ans, on prenne pas pas en considération des éléments aussi simples que l'hypertension artérielle qui provoquent des difficultés de vie au quotidien.
Ouais, ben, j'ai toujours dans les faits, c'est pas possible, c'est pas pour moi.
Non, bien sûr.
Vous avez connu aussi.
Bien sûr, c'est pas pour moi, c'est que pour les autres, et c'est la raison même d'abord on s'appelle AVC tous concernés parce qu'on est tous concernés soi-même, et au-delà de soi-même, c'est comme un tsunami tout ça. Ce sont des vagues qui se répercutent sur les gens qui sont autour, sur les frères et sœurs, sur les enfants. On embarque plein de gens avec soi, on rend difficile la vie matérielle, financière, affective de plein de monde.
02 99 67 35 35, nous avons un témoignage ce matin, celui de Catherine qui habite à Saint-Malo-de-Bégnon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors vous nous appelez à propos de votre fils ?
Oui, c'est un peu particulier, il y a 8 ans, donc mon fils est militaire dans un milieu de par son activité interne, et suite à une mission extérieure, il est rentré à la maison, il s'est posé tranquillement à la maison. Il a discuté avec nous dans le canapé, mais le fait de relâcher toute la tension qu'il avait eue sur place à sa mission extérieure, eh bien, il m'a fait un début de liaison.
D'accord. Et comment avez-vous... On a une liaison qui n'est pas très très bonne, hein, donc je pense qu'on ne pourra pas rester très longtemps ensemble. Mais comment avez-vous réagi, vous, à ce moment-là ?
Alors moi, je suis très intéressée depuis toujours. Donc, je regarde régulièrement les émissions à la télé, même la nuit et tout ça. Donc quand j'ai vu qu'il commençait à avoir des difficultés de la parole, c'est un bras qui gênait et que lui pensait dire les mots, mais en fait les mots étaient, comment dirais-je, mélangés.
Oui.
J'ai tout de suite compris que c'était un AVC. À l'époque, donc il y a 8 ans, j'ai appelé le 15 qui me conseillait donc de l'emmener aux urgences à Rennes. Donc j'y suis allée toute seule et mon témoignage était surtout quand ça arrive, peut-être vous prendre en charge, parce que je ne pense pas que ça se passerait maintenant, directement par les ambulances, oui, ou le système médical, parce que j'étais tellement intéressée par le fait qu'il tienne, et surtout de le tenir propre dans la voiture, que de se tromper d'hôpital. Quoi.
D'accord, oui, donc on a compris, même si la liaison n'est pas bonne, donc pour vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Philippe, c'est vraiment, oui, vous appelez le 15 tout de suite, et c'est eux qui prennent en charge, on n'amène pas la personne sur un hôpital ou tout ça. Bon, on a le cas de Catherine, donc qui se trompe en plus d'hôpital, bon voilà, y a le 15, c'est vraiment leur boulot. Quoi.
Oui, et puis surtout ce que vient de dire madame, c'est que je comprends très bien ce que vous dites, madame, le fait de... Oui. D'être sous tension, c'est exactement ce qui m'est arrivé, d'être sous tension, puis à un moment donné, je me souviens très bien, la veille de mon accident, c'était le dernier conseil municipal du mandat, donc c'était fini. Et je suis rentré chez moi et j'ai posé les valises. Sauf que poser les valises, ça veut dire tout relâcher. Mmh. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous parlez de conditions professionnelles extrêmement difficiles. Ça a dû... il devait avoir un problème d'hypertension artérielle très important, lié justement aux conditions professionnelles qui étaient les siennes. Et puis, à un moment donné, il a tout relâché. Et donc, tout relâcher, c'est mettre en difficulté le fonctionnement du sang, les plaques qui peuvent, voilà, qui peuvent être créées par le cholestérol, par le diabète, etc. Voilà.
Il faut tout de même dire que si c'est comme vous, il n'a aucun problème de santé particulier. Mais ce que je voudrais souligner, c'est quand même quand c'est arrivé, vraiment effectivement le fait de relâcher, ce qui veut dire que après des missions comme ça, le travail n'est pas suffisant pour assumer l'état de santé de nos militaires. Voilà.
Eh bien, il faut aller voir un psychiatre, madame. Parce que c'est pas que des raisons militaires, il y a aussi une reconstruction psychologique derrière qui est extrêmement importante.
Mais on comprend le message aussi, peut-être qu'au niveau de l'autorité militaire, il y a aussi des choses à mettre en place. On pourrait peut-être l'évoquer dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Catherine, pour votre témoignage. 22 ans, on le disait tout à l'heure, hein, il n'y a pas d'âge. Hein.
Non, il n'y a pas d'âge. Les facteurs concernent absolument tous les âges. Simplement, quand on est jeune, on est robuste, on a un corps qui est en pleine santé, c'est comme une salle de bain. Quand elle est neuve, la tuyauterie est neuve, donc elle est plus résistante, et puis les années passant, elle devient fragile, et il peut y avoir, s'il y a une mauvaise maintenance, des fuites dans la salle de bain. Donc il est important, plutôt que d'appeler le plombier, en l'occurrence le 15, il est important de s'occuper de sa tuyauterie tout au long de sa vie.
02 99 67 35 35. Autre témoignage, celui de Anne à Surzur. Bonjour Anne.
Bonjour. Oui, voilà, moi j'ai fait un AVC il y a 4 ans.
Oui.
Bon, je suis diabétique, déjà, sous insuline. Et ça m'a prise, moi, j'ai eu mal à la tête. Et ma fille m'a appelée, comme je suis toute seule. Ma fille m'a appelée, puis elle me dit, je lui dis, oh, j'ai mal à la tête, ma fille. Ah, ah ben, maman, on va t'allonger, prends un cachet. Bon, c'est ce que j'ai fait. En pensant après que j'avais fermé la porte à clé, j'ai voulu me lever, j'avais plus de jambes, rien du tout, je faisais que de rendre.
D'accord.
Et alors, j'ai ouvert, j'ai essayé d'aller, je ne pouvais pas marcher, j'étais à plat ventre, et j'ai ouvert ma clé comme la porte quand même, et puis j'ai pris mon téléphone, et comme je voyais plus, alors je faisais n'importe quel numéro, et puis tout d'un coup, j'ai tombé sur mon jambe. J'ai pu dire tomber, c'est tout. Et me voilà parti dans le coma.
D'accord. Et donc, c'est lui qui a déclenché les secours,
et
en fait.
C'est ma fille qui est venue tout de suite, qui a appelé le docteur traitant. Mmh. Et le docteur traitant a dit, c'est un AVC, il faut appeler les pompiers.
Voilà. Et donc, vous avez été hospitalisé. Il y a eu tout un processus derrière de convalescence. Aujourd'hui, vous en êtes où, Anne, exactement, vous?
Alors, maintenant, bon, ben, j'ai plus le droit de conduire, enfin...
Oui.
Je sais pas, mais selon moi, comme je vois plus,
oui.
Et alors j'ai marché en fauteuil roulant.
Mm-hmm.
J'ai été en fauteuil roulant plutôt, en déambulateur 2 roues et en déambulateur 4 roues. Après, j'étais une canne à 3 doigts. Là, je sais pas comment ça s'appelle, une tri, je sais quoi. Et maintenant, je suis avec une canne.
D'accord.
Mais j'ai pas de stabilité du tout, du tout.
Voilà, donc ça, c'est une gêne importante au quotidien, évidemment, quoi.
Oui, et je fais du kiné 2 fois par semaine.
D'accord. Et ça, ouais. ça vous aide, le kiné, ça vous aide quand même.
Ça m'aide à marcher. Il me fait marcher sans canne.
Merci pour ce témoignage, Anne.
Ouais.
On vous souhaite une bonne journée à Surzur. Merci de nous avoir appelés. La convalescence est importante, hein, cette période où on réapprend à trouver des repères, où on réapprend à marcher, pour certains, plus ou moins, à vivre, à trouver des repères au quotidien.
Ben, c'est extrêmement important. D'abord, c'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas être dans le déni. Et puis on réapprend des choses, ou alors on apprend à contourner des choses. Mais c'est extrêmement important dans la recherche d'autonomie de la personne, plus ou moins longue, si la prise en charge est extrêmement rapide, et même si elle est très rapide, suivant les zones qui sont touchées, il y a des choses qui sont rééducables, d'autres pas. Et l'essentiel est de réapprendre à vivre avec ces difficultés, quelles qu'elles soient.
Autre témoignage pour insister aussi sur la façon dont on doit réagir sur le moment, c'est celui de Marie-Vonne qui habite à Saint-Hélène. Bonjour Marie-Vonne.
Oui, bonjour. Moi je vous appelle parce que j'ai eu un AVC il y a 5 ans à peu près aussi, en pleine nuit, en allant aux toilettes. J'ai eu comme un violent maux de crâne, comme si on m'avait passé un coup de marteau ou une masse. Mais je n'ai pas mis ça sur le dos d'un AVC. Je me suis dit, oh bonté, qu'est-ce que je me suis pété là-dedans. Mais pas appeler le 15, bien sûr, parce que je me dis, je ne veux pas déranger, il est minuit, qu'est-ce que je vais aller embêter les gens. Donc j'ai appelé mon fils, que le lendemain j'ai été pris de vomissements. J'étais longtemps à genoux devant mes toilettes, on va dire. Je suis redescendue, j'ai pris un aspégique, et puis, enfin un doliprane, et puis je me suis réendormie jusqu'à 7h le matin. Le problème, c'est que le lendemain matin, je voyais trouble comme du brouillard.
Oui.
Et là, j'ai appelé un de mes enfants qui est venu, qui a tout de suite lui pensé à l'AVC, mais entre-temps, j'avais appelé le médecin qui m'envoie lui chez l'ophtalmo, pensant que c'était un simple trouble de la vision. Et attendu 2 heures chez l'ophtalmo, qui lui a dit à mon fils, mais madame, fait un AVC, faut vous l'emmener aux urgences. Mais on n'a pas appelé les pompiers, même chez l'ophtalmo, on n'a pas réagi, hein. Oui. On m'a laissé guider comme ça. Mais moi, j'en suis bien remise, hein. J'ai été hospitalisée aux urgences de Saint-Malo, et puis bon, après, j'ai été 15 jours à peu près hospitalisée. Pas de séquelles de marche, juste trouble de la vision avec rééducation tortique. Voilà, pour les yeux. Sauf que, sort de là, le neurologue nous dit, déclaration à la préfecture. Et ça, personne n'en parle. Quand vous avez fait un AVC, vous perdez automatiquement votre permis, il faut le déclarer à la préfecture.
Oui.
Et ça, moi, je suis tombée des nues en apprenant ça. Et je vous entends là, et j'entends des gens en parler, mais personne ne parle. parle de ce problème de conduite qu'on doit, et cette obligation qu'on a de le déclarer à la préfecture pour une histoire d'assurance, on m'a dit, parce que si vous provoquez un accident ou quoi que ce soit et qu'on s'aperçoit que vous avez fait un AVC, que vous n'avez pas signalé cet incident à la préfecture pour votre permis de conduire, les assurances ne fonctionnent pas.
Bon, mais Marie, on en a parlé, c'est très bien d'avoir témoigné, et Philippe Ménard va réagir là-dessus.
Oui, j'ai effectivement passé une visite médicale chez un médecin qui m'a envoyé voir une auto-école, j'ai pris des cours, j'ai pas repassé mon permis parce que le permis n'est pas annulé, mais j'ai passé un examen médical par lequel j'ai eu une autorisation du médecin de reconduire. Il est évident, et madame a raison, c'est que cette information n'est pas portée à la connaissance ni des familles, ni des patients dans les hôpitaux, dans les services de neurologie, c'est pas leur travail, mais dans les services de rééducation, et de bonne foi, on peut reprendre la voiture et provoquer un accident, et à ce moment-là, on n'est pas couvert. Donc, cette information est extrêmement importante. Pour se couvrir, j'ai appelé mon assureur qui m'a dit passez des examens, contactez la préfecture et merci d'en parler.
Voilà, c'était important effectivement de le préciser aujourd'hui. On a deux appels, on va essayer d'aller très 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 vite parce que vous êtes nombreux à vouloir intervenir ce matin, uniquement des dames d'ailleurs. Arlette Apéole, bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Je voudrais témoigner pour parce que mon mari a fait un AVC en 2016. Et donc, qui était relativement assez grave. Mmh. Et je m'en suis aperçue tout de suite, puisque nous étions en repas de famille, et subitement, son bras droit est tombé de la table.
D'accord.
Donc, je pensais qu'il plaisantait. Mon beau-frère lui remet son bras sur la table. Il est retombé. Mmh. Et à ce moment-là, il pouvait encore parler. Il m'a dit, je ne peux pas remettre mon bras sur la table. Tout de suite, j'ai tilté. Je me suis dit, ça y est, c'est un AVC. Donc, j'ai appelé le 15, qui n'a pas voulu le prendre en charge, absolument pas, après avoir eu une longue discussion, et très très longue, et justement, je n'appréciais pas du tout le 15. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, ils m'ont quand même, au bout de trois quarts d'heure, ils m'ont envoyé les pompiers, sachant que c'était bien un AVC et que mon mari avait perdu la parole et qu'il ne pouvait plus bouger son bras droit. Donc, il est parti et il a été hospitalisé à Vannes.
Ouais, donc là, il y avait une mauvaise appréciation. Donc,
il y a longtemps, madame. Il y a longtemps, madame.
C'est le 24 octobre 2016.
Donc, il y a un an demain, quoi. Arlette, merci pour ce témoignage qui prouve que malgré tout, parfois on peut passer à côté quand même, quoi.
Ben parce que ce sont des hommes qui, 24 heures sur 24, ont affaire à des cas, qu'il y a forcément des comportements humains qui provoquent des erreurs, comme c'est le cas. Pour en avoir discuté avec les médecins qui me suivent, il y a une prise en compte de cet aspect des choses et une formation continue des médecins régulateurs et des standardistes au niveau du 15.
Mmh. Arlette, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à raconter ensuite, et l'histoire continue malheureusement avec votre époux qui a subi un deuxième AVC derrière, mais c'est vrai que les témoignages sont très nombreux ce matin, donc on va être obligé de s'arrêter là et de retrouver. On vous remercie évidemment pour votre témoignage ce matin. On va accueillir pour terminer cette émission Françoise qui habite à Hénin-Billon. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors, on vous écoute.
Moi j'ai fait un AVC avec rupture d'anévrisme.
Oui.
Et en fait, on m'a ouvert la tête, comme je dis, et on m'a réparé. Et je suis ressortie de là bien fatiguée. J'ai mis beaucoup de temps à reprendre le travail. Par contre, comme me disent beaucoup, vous n'avez aucune séquelle. C'est-à-dire que je marche, je parle, et ça ne se voit pas à l'extérieur. Mmh. Et donc moi, je voulais témoigner parce que moi, mes séquelles, ils sont à l'intérieur. Ah, je fatigue un peu tous les jours, j'ai plus de mal à me concentrer et tout ça. Et par contre, ce que j'ai horreur, c'est que quelqu'un me dise « T'as fait un AVC ? Oh mon Dieu, mais tu n'as aucune séquelle !»
Oui, ça c'est connu.
Alors mes séquelles, c'est mm-hmm. Je prends des antidépresseurs à vie, je pense, et j'ai pris 20 kilos.
Mm-hmm.
Et ça, j'en souffre énormément. Et quand on me dit que j'ai pas de séquelles, ça me fait vraiment mal. Voilà,
c'est ce qu'on évoquait, Philippe Ménard, tout à l'heure, hein, les séquelles invisibles.
Madame décrit ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Mm-hmm. C'est-à-dire, je me souviens, un jour, j'étais dans un aéroport, une circonstance particulière, j'ai pris une file qui était réservée aux personnes handicapées, parce qu'il y avait 300 personnes qui attendaient. J'ai une carte d'handicapé, et j'ai une carte notamment pour faciliter le passage. J'ai des problèmes d'équilibre, moi aussi, liés à l'opération qui m'a été dispensée. Et je me suis fait traiter de non pas très gentil, en disant « ça te fait pas chier de passer devant tout le monde ?» Et je me suis dit « écoutez, je prends la file, c'est ça, toi t'es handicapé, et ma mère aussi. Mmh. » Voilà. Donc, on est en fait face à la violence humaine, la méchanceté humaine, la bêtise parfois, et ce qui caractérise les handicaps invisibles, c'est aussi une fragilité émotionnelle beaucoup plus importante, exacerbée par rapport à tout le monde. Donc, ce genre de situation est extrêmement pénible à encaisser et induit un ressenti comme vient de l'expliquer, madame.
Françoise, donc de Hénonbillard, merci pour votre témoignage, Françoise. Merci pour, plus généralement, pour tous vos témoignages ce matin, qui étaient nombreux, qui étaient prenants aussi, parce que c'est un sujet qui est parfois difficile. Vous pouvez continuer à échanger avec Philippe Ménard, si vous le souhaitez, sur le site avc-tousconcernés.org. L'émission a été diffusée en direct, là, aujourd'hui, sur Facebook.
Oui, sur Facebook, okay. Puisqu'on a aussi un Facebook. Donc ça permet à plein de gens, là, je lisais les messages, j'ai des amis qui sont très loin et qui suivent l'émission aussi, donc c'est très bien.
Bon ben voilà, si l'important c'est d'en parler, évidemment, merci pour tout ce que vous faites avec Gino Porretto qui vous accompagne à vélo, avec tous vos collègues aussi qui sont sur cette opération. Prochaine étape, donc c'est Nantes.
Oui, demain à Nantes, et comme je suis chez vos collègues de France Bleu Loire-Océan demain matin, ça veut dire qu'il faut que je me tape 120 bornes cet après-midi à tricycle et dormir à Nantes pour être d'attaque demain matin.
Bon, je vais pas vous casser le moral, mais là j'ai le bulletin météo sous les yeux.
C'est, mais la pluie, c'est pas terrible. Grave. Vous savez, la pluie, c'est un bonheur.
Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir été présent. Merci d'avoir cette énergie, ce courage de nous parler de tout ça. On vous souhaite un bon retour aussi chez vous, là-bas en Gironde.
Merci.
À bientôt, Philippe. Au revoir. France Bleu.
Robert, t'as bien pris tes médicaments Mylan ce soir ?
Bah non, en fait j'ai peur de pas bien les supporter.
Robert, je te l'ai déjà dit. Pour ces médicaments, Mylan s'engage à choisir des excipients qui limitent au maximum le risque d'intolérance. Pourquoi tu t'inquiètes ?
C'est vrai ça. Qu'est-ce que je ferais sans toi ?
Et sans Mylan ?
Mylan, c'est 3300 scientifiques qui travaillent dans nos 4 centres de recherche et développement pour chacun d'entre vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Mylan.
Mylan.
Une meilleure santé.
Pour un monde meilleur.
La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr.
9h53, le conseil santé bien-être avec Vanessa Lambert. Bonjour Vanessa.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors, ce n'est pas encore vraiment la saison, mais c'est le moment de penser tout de même à son chauffage, Vanessa.
Oui, on n'est pas à l'abri d'un coup de froid rapide et donc d'une envie tout aussi rapide de chauffage. Mais avant de rallumer tout ça, il va falloir être sûr que tout fonctionne correctement. Et il n'y a pas un chauffage, mais des chauffages. Convecteur électrique, chauffage au gaz, au fioul, cheminée, l'entretien n'est évidemment pas le même. Alors, on va commencer par ceux qui se chauffe au fioul ou au gaz et qui donc ont une chaudière. Vous devez la faire entretenir au moins une fois par an par un professionnel, de même qu'il faut entretenir les conduits de combustion tous les ans. Si vous passez cette étape, la combustion peut mal se faire et vous risquez une mauvaise évacuation et donc des intoxications. On parle chaque année des intoxications au monoxyde de carbone, par exemple. Même chose pour le chauffage au bois, que ce soit cheminée ou poêle. Vous devez faire ramonner vos conduits. Si vous avez en revanche un chauffage électrique, vous ne prenez aucun risque, pas besoin de contrôle. En revanche, comme ils ont pris la poussière tout l'été, pensez à les nettoyer avant de les remettre en route pour éviter que les particules de poussière ne se retrouvent dans l'air que vous respirez.
Oui, voilà. Alors, ça amène une autre question. Est-ce qu'il y a un mode de chauffage qui est meilleur qu'un autre pour la santé ?
Tout ce qui est chauffage par rayonnement, oui, c'est-à-dire des radiateurs par chauffage central, qu'ils soient au gaz ou au fioul, par du chauffage au sol aussi, ça produit une chaleur homogène et pas juste un souffle chaud. Les radiateurs électriques, encore eux, vont souffler un air chaud, rapide, mais également un air sec, pas terrible donc pour les personnes allergiques ou asthmatiques. Même chose pour les petits convecteurs d'appoint qui, comme leur nom l'indique, doivent rester d'appoint, voilà. Enfin, le bois, on n'en a pas parlé, c'est sûr, c'est beau, c'est romantique, c'est écolo, diront certains, mais il ne faut pas trop en abuser, car la combustion du bois émet des substances nocives qui peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. Alors oui au bois, mais oui si vous avez un insert seulement. Bah oui, je sais, c'est moins joli, mais bon, vous êtes mieux protégé.
Et puis on va parler aussi de quelque chose d'essentiel, niveau température, ça donne quoi ?
Alors chaud, mais pas trop. L'idéal serait même de ne pas dépasser les 19 degrés dans chaque pièce de la maison et même encore un peu moins dans les chambres. Plus vous chauffez, plus vous asséchez l'air et plus vous aurez l'impression d'avoir le nez bouché et les yeux qui piquent. Si vous n'avez pas le contrôle sur le chauffage, je pense aux immeubles collectifs, n'hésitez pas à placer une petite coupelle d'eau près de vos radiateurs pour humidifier l'air et aérer également souvent. Alors je sais, c'est pas écolo, mais c'est pas moi qu'il faut le dire, hein, c'est au syndic.
Ouais, exactement. Merci beaucoup Vanessa et à demain.
Voyez la vie en bleu sur France Bleu Armorique.
France Bleu.
Salut.
Alors, on se le fait ce petit footing ? Je suis hyper en forme.
Ouh là là, le petit footing. Oui, alors non mais moi aussi hein, je suis hyper en forme. C'est juste que là, faut que je passe à la préfecture pour faire mon permis de conduire.
Mais t'es pas au courant ? Maintenant tes démarches, tu fais tout ça sur internet, même avec ton smartphone. Alors, dispo ? J'ai une pêche moi.
Eh oui, il va falloir enfiler les baskets. Permis de conduire, carte grise, réalisez vos démarches en ligne. C'est plus simple et plus rapide.
Rendez-vous sur démarche.intérieur.gouv.fr.
Aujourd'hui, Stéphane nous révèle un nouveau secret d'Akena, la reine des vérandas.
Et son secret, ce sont ses origines. Car elle est intégralement fabriquée en France. En Vendée, son fief depuis toujours. En fait, cette fabrication française est surtout un gage de qualité fabuleux. On peut dire que les installateurs Akena ont de l'or au bout des doigts.
Réalisez à tout moment votre demande de